Chers auditeurs, bonsoir. Dans le cadre de notre émission de ce soir, nous recevons trois invités. Le premier, c'est Monsieur Tabala Mwalambuyi, qui est conseiller chargé de sport d'élite au cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports. En ligne, nous aurons l'honorable Kabongo Ngoy, qui est député du groupe parlementaire MLC et ancien footballeur professionnel. Et notre troisième invité est Maître Alain Makengo Kinkandu, qui est président de l'ONG LISPED, qui veut dire Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Ensemble, nous allons débattre sur le thème au choix de nos trois invités. Alors, sans plus tarder, je m'en vais donner la parole à notre premier invité, M. Kabala Mwalambuyi, qui a choisi de s'exprimer sur l'équipe nationale, le Léopard. M. Kabala Mwalambuyi, vous avez la parole.
Oui, l'équipe nationale est tout pour un pays. C'est son drapeau, c'est son prestige, c'est sa représentation diplomatique. Il y a plusieurs enjeux qu'on retrouve à travers l'équipe nationale. Enjeux économiques, enjeux sociaux, enjeux politiques et diplomatiques. Enjeux économiques parce que derrière l'équipe nationale, il y a des retombées financières. Enjeu social parce que à travers l'équipe nationale, il y a les enfants du pays qui trouvent à manger, il y en a même qui trouvent, même à titre temporaire, un emploi. Et sur le plan diplomatique, personne ne peut se priver du bonheur que cela procure lorsque la représentation est de qualité. Alors j'ai dit dans notre pays, bon, lorsque cela a été réalisé avec beaucoup de bonheur, il y avait la joie de tout le monde. Mais depuis que nous avons appris à perdre, excusez-moi de l'expression, eh ben, ça n'enchante plus la population et une fois qu'il y a des défaites, on se retourne vers les décideurs, donc le gouvernement. Voilà pourquoi nous disons qu'il est du devoir à la fois et du gouvernement et des institutions délégataires de pouvoir et de pouvoir d'organisation sportive, de pouvoir s'assumer et prendre leurs responsabilités tout à fait à fond. Que nous arrive-t-il? Ce qui nous arrive actuellement, c'est que on espère, on attend dans son fauteuil et on attend des résultats qu'on n'a pas préparés. Et ça, c'est malheureux lorsque nous savons que c'est un pays où le sport passe pour un élément intégrateur sur le plan socio-politique et un élément qui va au-delà des acquaintances politiques ou, comme le disent les hommes des sciences, ethno-tribal. Le sport semble être un des facteurs qui rassemble la population en dehors de toutes ces considérations-là. Mais un État qui se veut mobilisateur, qui se veut fédérateur, ne peut pas négliger un facteur comme celui-là. Et en plus, sur le plan politique, vous savez, Stéphane, que la RDC a été le premier pays subsaharien à avoir été à une Coupe du Monde de football en 1974. Et en 2010, la Coupe du Monde va se jouer juste à côté de la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, à 2 heures à vol d'oiseau de Lubumbashi à Johannesburg. On a l'affaire. Imaginez-vous que cela se passe avec cette population qui aime bien le sport, on l'a vérifié avec la dernière CAN, que cela se passe sans la République démocratique du Congo. Regardez bien ce qui va se passer. Et je vous apprends que l'Organisation mondiale du tourisme et la Fédération internationale de football ont choisi la RDC comme l'un des sites qui doivent recevoir l'une ou l'autre équipe finaliste de la Coupe du Monde 2010. C'est-à-dire qu'il y aura un camp d'entraînement pour ces équipes-là, parce qu'il y a des équipes qui redoutent les conditions sécuritaires ou tout simplement climatiques et même des difficultés culturelles et qui ont choisi de pays qui leur conviennent pour se préparer et même rester pendant la Coupe du Monde si la distance n'est pas longue.
Imaginez la RDC en fait partie.
La RDC, le Lubumbashi est situé à 2 heures, alors que si vous partez de Johannesburg pour Cape Town, vous voyez la distance que cela fait, ça fait même un peu plus d'heures qu'en faisant le Lubumbashi et Johannesburg. Il y a des pays qui préfèrent venir s'installer ici. Et imaginez-vous que cela s'efface sans la RDC. Mais c'est une absence remarquable à un rendez-vous comme celui-là. Et il y a des effets d'entraînement. C'est pour cela que nous disons que maintenant, il est plus que temps que tout le monde comprenne, et en première position, le gouvernement. Parce que, par exemple, il nous arrive de croire, lorsqu'on présente un entraîneur expatrié qui demande 25 000 euros, 30 000, cela est arrivé dans le passé, au gouvernement, il y a eu des débats interminables. Des membres du gouvernement, des ministres, qui se sont élevés contre le recrutement des entraîneurs expatriés du fait qu'ils demandent des salaires qui valent plus de 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois que les salaires des ministres. Mais nous voulons expliquer à leur excellence, messieurs les ministres, mais ils doivent suivre ce qui se passe ailleurs et qu'ils connaissent le salaire de l'entraîneur de football en Grande-Bretagne. Mais l'entraîneur de football en Afrique du Sud ne touche plus de 100 000 $, s'il vous plaît. Monsieur Morion, mais c'est dans des millions. Monsieur Claude Leroy, qui a été chez nous ici, il est aujourd'hui au Ghana, mais c'est à plus de 40 000 € qu'il est rémunéré. Actuellement, Alain Giresse est parti au Gabon à plus de 35 000 €. Mais cela dépend de ce que l'entraîneur apporte au pays. Et le prestige d'un pays et sa réputation, sa représentation nationale n'est pas à ce prix-là. Et surtout, quand un entraîneur expatrié arrive dans un pays, il apporte un plus de par la rigueur de son travail, son professionnalisme, et il a de l'emprise sur nos footballeurs, parce que maintenant l'Afrique a l'habitude de rassembler les professionnels et les amateurs. Lorsque vous leur confiez un entraîneur qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont déjà appris sous d'autres cieux avec des entraîneurs plus qualifiés, mais ils n'ont pas de respect envers cet entraîneur. Et c'est comme ça que nous avons des résultats qui sont médiocres. Il est plus que temps qu'on en prenne conscience, et c'est pour cela que nous lançons ces cris d'alarme.
Le cri d'alarme, vous le lancez au gouvernement?
Au gouvernement, à tous les décideurs en général. L'argent investi dans le sport, ce n'est pas de l'argent perdu, il est possible de le récupérer.
Merci, je rappelle que c'était M. Kabala Mwanambui, conseiller chargé des sports d'élite au cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports. À présent, je me tourne vers notre deuxième invité, Maître Alain Makengo Kinkandu, qui est président de l'ONG LISPED, qui va donner son point de vue par rapport au thème qu'a choisi M. Kabala Mwanambui, à savoir l'équipe nationale, le Léopard.
Ouais, si je retire la dernière parole du conseiller Kabala,
le cri d'alarme,
lorsque certains ministres, pas seulement de notre pays, mais des autres pays aussi, qui croient, qui veulent faire un distinguo entre leur salaire, hein, leur salaire avec celui qui pourrait toucher un expatrié, je crois que toute comparaison n'est pas raison, comprenez. Donc je crois qu'il a expliqué la philosophie lorsque nous, Africains, lorsque les autres continents, les autres pays aussi, veulent avoir un expatrié. C'est quelque chose de mimétisme. Nous voulons aussi pas copier, mais faire ce qu'ils font aussi les autres. Parce que cet entraîneur-là va amener un plus. Il va amener un plus, il va amener son expertise dans la vie nationale en ce qui concerne le sport, une discipline donnée. J'ai été au Ghana dernièrement, pendant la phase finale de la CAN. Vous savez, le rôle qu'a joué Claude Leroy pour mobiliser les peuples ghanais autour du football. Et lorsque même l'équipe a été éliminée, tout le monde a reconnu à leur entraîneur certaines performances. Et jusqu'à ce que même le Parlement s'est dit, ok, pour reconduire Claude Leroy, non seulement pour la conquête de la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être c'est aussi leur mission, c'est aussi leur ambition pour la Coupe d'Afrique 2010, mais pour que le Ghana puisse se présenter dignement au niveau de l'Afrique du Sud, où tous les peuples africains, où toutes les nations africaines veulent voir ces trophées, veulent voir cette compétition à travers cette compétition en Afrique. Et nous, je crois que nous ne pouvons pas nous voler la face. Nous avons été le premier pays d'Afrique noire à participer à une Coupe du Monde. Mais pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, nous n'avons pas la justification de ne pas y être. Il est grand temps qu'on mette un peu de l'ordre, il est grand temps qu'on ait des ambitions d'une grande nation de sport. Nous sommes une grande nation de sport, mais qui s'ignore. Donc nous pouvons même aller au-delà de Claude Leroy, chercher un entraîneur qui doit mobiliser le footballeur congolais, qui doit donner une certaine identité de notre football par rapport à ce que nous voulons. J'avais même rencontré M. Issa Yatou. Maintenant, il m'a dit, mais dans votre pays, vous n'en organisez rien. Hein, vous n'en organisez, il faut oser. Hein, il faut pas faire de différence entre le traitement d'un expatrié, d'un entraîneur expatrié à celui d'un ministre. Donc, toute comparaison n'est pas raison.
Avons-nous l'ossature pour arriver à des résultats satisfaisants?
Mais non. Je crois que, monsieur le conseiller, vous a brossé l'historique de assez concerné le football. Nous avons été champions en 68 en Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons été champions en 74. Nous avons été troisième au Burkina Faso. Le club a été deux fois champion d'Afrique. d'Afrique, Mazembe trois fois champion d'Afrique, et Motema Pembe une fois champion d'Afrique. Donc, il y a du jus dans notre pays, il y a des talents dans notre pays, et je crois qu'il ne peut pas me contredire. Lorsque Claude Leroy, même en partant, en quittant ce pays, il y avait des larmes dans ce jeu, je quitte un pays qui a de la valeur, un pays qui a du jus, qui a du talent, c'est qu'on le football. Donc, le prouesse ne me manque pas. Je crois qu'il faut qu'il y ait ce qu'ils nous avons dit, une volonté. Je me rappelle, il fallait le gouvernement marocain, en sortant avec le Rome, il a mis 25, il avait mis 25 millions de dollars pour la relance du football, du sport marocain. Mais dernièrement, le Parlement avait mis 2 millions de dollars pour les musiciens. Mais qu'est-ce qu'on avait prévu pour le sportif? C'est ça, c'est qu'on avait parlé dernièrement avec l'honorable Kambay, la non-considération des fois, ce qui concerne le sport dans notre pays, le budget même, on alloue combien de pourcentage de budget à ce qui concerne le sport, moins que rien.
Merci beaucoup, je rappelle que c'était Maître Alain Makengo Kinkandou, qui est président de l'ONG LISPED, qui veut dire Ligue Sportive pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme. À présent, nous allons passer à notre deuxième thème de ce soir, et il a été proposé par l'honorable Kabongo Ngoy, qui est membre du groupe parlementaire MLC et ancien footballeur professionnel. Honorable, vous êtes avec nous? Allô? Je crois que nous avons un problème de liaison avec l'honorable Kabongo Ngoy. Nous allons passer au troisième thème de ce soir. Il sera proposé par notre troisième invité, à savoir Maître Alain Makengo Kinkandou. Je vous rappelle, est président de l'ONG LISPED, qui veut dire Ligue Sportive pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme. Et Maître Alain Makengo Kinkandou a choisi de s'entretenir sur le thème lié à la violence dans le milieu sportif. Maître, vous avez la parole.
Ouais, avec votre permission, notre thème libre, c'est lié à trait à la violence. Nous nous sommes posé beaucoup de questions à ce concernant la LISPED. Pourquoi il y a la violence dans le sport? Et la violence n'est pas seulement ici dans notre pays en RDC. Vous savez, le foot, beaucoup de disciplines apportent la passion. Et nous sommes dit, comment on peut réfléchir pour éradiquer ne fût-ce que la violence dans notre pays? Parce que sous l'autre cieux, en Europe, en Amérique, il y a des organisations, l'État est en train de réfléchir comment faire pour éradiquer la violence. Nous sommes dit, lorsque nous allons dans les installations sportives, c'est pour la fête, c'est pour la solidarité, c'est pour la tolérance, c'est pour le respect des uns et des autres. Mais lorsque nous faisons des installations sportives un terrain, un lieu de prédilection pour la bagarre, pour le vandalisme, pour les tueries, nous disons non, il faudra arrêter ce genre de comportement. Raison pour laquelle nous disons il faut que l'État prenne en main ses responsabilités. Comment est-ce que l'État jusque-là ne parvient pas à maîtriser certaines violences qui se font au niveau des installations sportives? Les phénomènes Kuluna, les phénomènes armées rouges qui se déversent même dans les installations sportives, les gens qui amènent des bâtons, les gens qui amènent des armes blanches, même jusqu'au niveau des installations sportives, comment on ne peut pas contrôler toutes ces personnes-là qui entrent dans les installations sportives pour essayer un peu de déranger la quiétude de certains sportifs? Et nous avons fait des recherches dans la législation en matière de la violence dans les installations sportives. Il y a eu un arrêté interdépartemental des 77 entre le ministère de la Jeunesse et du Sport et celui de la Justice qui réprime les actes de violence dans les installations sportives. Où on recourt à l'OPJ, où on recourt à l'officier du ministère public pour réprimer violemment, pour réprimer avec la dernière énergie en ce qui concerne la législation pénale sur les actes de vandalisme, sur les actes répréhensibles qui se passent au niveau des installations sportives. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons tablé sur les états généraux, et au niveau de la loi sportive, nous avons dit il faudra réfléchir, il faudra même ressusciter en son temps ce que M. Mobutu avait créé en 95. Il y avait une ordonnance en 95 qui avait créé la Commission nationale de la lutte contre la violence dans les installations sportives. Je crois que dans la nouvelle, dans le projet de la loi qui est soumis au niveau du gouvernement, et je crois que ça va passer au niveau du Parlement, il y a une commission que nous avons proposée, une commission nationale de la lutte contre la violence dans les installations sportives, qui aura comme mission de faire le bilan, d'établir les faits, de faire un peu la statistique hein, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, pourquoi il y a la violence? Quels sont les groupes cibles qui amènent la violence? Comment on peut le mettre hors d'état de nuire? Parce qu'aujourd'hui...
c'est le phénomène, par exemple, hooligan.
Voilà.
Ouais, le phénomène hooligan, je crois que c'est encadré. Le phénomène, aujourd'hui, si on sait qu'il y a une match, les Anglais vont aller en France ou en Belgique, on sait déjà encadrer les hooligans. Mais je crois que d'ici là, le 13 avril, il y aura un grand match qui va se jouer ici entre Darry Club et Mpembe et The Club. Il est grand temps parce que c'est une grande rencontre qui amène toujours la passion. Il faut qu'on mette des stratégies pour essayer un peu de mettre hors d'état de nuit toutes ces personnes qui viennent perturber l'ordre public dans les installations sportives. Je crois qu'ils viennent là pour se faire voir. Mais je vous dis, il y a certaines personnes qui ont juré de ne plus aller au stade parce que ce qu'ils voient là-bas, ce sont des scènes horribles. Donc, c'est les chevaux de bataille au niveau de la DSP qui ont voulu, ensemble avec l'État, voir dans quelle mesure on pourra éradiquer la violence dans les installations sportives.
Merci beaucoup, Maître Alain Makengo. Monsieur Kabala Mwanambui, la violence dans les installations sportives chez nous, c'est une réalité. Qu'en dites-vous?
Oui, une réalité. Je suis l'un des apôtres de la lutte contre la violence. Et dans l'exercice de mon métier de journaliste, je consacrais une bonne partie de ma vie professionnelle à la lutte contre la violence. Par l'éducation. D'abord, je commençais par vulgariser les lois de jeu. Et la morale sportive, parce qu'il existe une morale sportive qui n'est pas connue de tout le monde, et l'éducation sportive aussi. Je crois que ce sont des éléments qui concourent à l'éradication, sinon à la réduction de phénomènes de violence dans la pratique du sport. Et c'est pour cela que je lance un appel à tous ceux qui exercent le même métier que moi dans le passé, pour qu'ils soient des journalistes responsables. Que dans leur langage, il n'y ait pas d'indice de guerre et qu'ils ne soient pas des éléments incitateurs à la violence et qu'ils soient pour tout des éducateurs, des formateurs, parce que dans nos pays, les sportifs ne sont pas toujours éduqués, les journalistes non plus ne sont pas toujours des sportifs formés ou éduqués, mais ils ont cette tâche-là et ils doivent se mettre à la hauteur de cette tâche. Qu'ils soient des moralisateurs pour que notre sport soit un sport de qualité, un sport victorieux, mais alors prêchant la valeur morale et les vertus morales du sport. Voilà ce que je pense.
Merci. Tout à l'heure, Maître Makengo m'a demandé si je me rendais au stade, même si c'est moi qui pose les questions, mais j'ai quand même répondu par l'affirmatif. Mais pendant qu'on suit le match, on sait voir quand même qu'il y a des policiers au stade. Est-ce que c'est un nombre inférieur ou bien insignifiant?
Je crois qu'au mois de septembre 2007, monsieur le conseiller chargé de sport d'élite avait participé à un des colloques que nous avons organisé sur la lutte contre la violence, contre le racisme, contre la drogue dans le milieu sportif. Et nous avons invité les policiers, nous avons invité les militaires. Vous vous rendez compte, à travers les résolutions prises dans ces colloques, ils ont même demandé à ce qu'on puisse augmenter le nombre de policiers qui viennent pour encadrer le sportif lorsqu'il y a des matchs. Et il y a pas vraiment assez de professionnels dans ce qu'ils sont en train de faire. Les outils qu'ils utilisent pour essayer un peu de mater certains débordements, ce n'est pas approprié. Vous imaginez, à cause d'un petit débordement, on utilise des gaz lacrymogènes. Or, lorsqu'on utilise des gaz lacrymogènes, on ne fait même pas compte de personnes qui sont dans ce milieu. Il y a des handicapés qui sont là-bas, il y a des femmes, il y a des enfants, et il y a d'autres personnes vulnérables par leur état de santé peut-être. Mais lorsque vous lancez des gaz lacrymogènes, ça crée des problèmes en ce qui concerne la perturbation dans les installations sportives. Donc, même s'il y a des policiers, il y a beaucoup de failles, nous demandons toujours à la police nationale, qui nous félicitons souvent lorsqu'il y a des débordements, ils tiennent quand même le cap lorsqu'ils interviennent, mais cette fois-ci, il faut qu'ils amènent quand même un nombre suffisant et qu'ils améliorent aussi leurs outils d'intervention pour qu'on ne sente pas qu'on est en face, on est dans une guerre. Parce que la tête peut être. Lorsque la tête est proportionnée, il ne faudra pas que la contre-tête soit disproportionnée. Vous comprenez? Dès lors que les supporters, sinon, ils n'ont même pas des pierres, hein, voulaient lancer des gaz lacrymogènes, je crois qu'il y a des techniques, ils ont des techniques appropriées pour essayer un peu de.
Mais vous avez évoqué des armes blanches dans des stades.
Ouais, mais là, c'est la prévention. La prévention, c'est à quel niveau? Lorsque les supporters entrent, il faut les fouiller. Hein, il faut qu'il y ait une fouille systématique. Mais je crois qu'il y a, c'est aussi les outils, hein, les outils de travail. Vous savez, sous d'autres cieux, lorsque vous entrez dans un lieu public, il y a déjà des machines, il y a déjà des appareils qui détectent qu'il y a des objets tranchants, et on vous dit directement de mettre ça de côté. Mais des fois, qu'est-ce que font nos policiers? Au lieu de contrôler, ils attendent, ils font ce que nous appelons les taxis, et prendre, au lieu que les supporters aillent payer son ticket, on les appelle, non, pour le faire entrer, on ne sait même pas ce qu'il y a dans sa poche, ce qu'il garde comme arme à consort, raison pour laquelle nous voulons qu'il y ait la vigilance lorsqu'il y a des contrôles, lorsqu'il y a surtout des matchs de haute envergure, tels que le match d'Eric Matemba contre le club, il faut qu'il y ait une fuite systématique de gens qui vont entrer dans les salles de sortie.
Merci, je rappelle que c'était Maître Alain Makengo Kinkandu, qui est président de l'ONG LISPED, qui veut dire Ligue Sportive pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme. Je me tourne à présent du côté de M. Kabala Mwanambui, qui est conseiller chargé des droits de sport, pardon, d'élite, au cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a débattu sur l'équipe nationale et qui a lancé un cri d'alarme aux décideurs de ce pays. À présent, M. Kabala, votre dernier mot par rapport à votre thème libre de ce soir.
Oui, mon dernier mot, c'est que l'équipe nationale est une fierté pour tous. Lorsqu'elle gagne, ceux qui en ont la possibilité, ils ne se privent pas des coupes de champagne. Et d'autres se retrouvent pour des discussions et qui les mettent au-delà et surtout en dehors et à l'abri des stress de tout genre qui amènent des maladies dans la société. Et nous avons tout intérêt par conséquent de pouvoir, comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Nous devons mettre beaucoup de soin à la préparation de cette équipe nationale qui doit être une équipe représentative de toutes les valeurs que nous avons dans notre pays. Et ce n'est pas ce qui manque, parce que nous nous sommes rendus compte, au travers du match livré par nos jeunes expatriés en Europe avec l'équipe de France, prime, vous vous êtes rendu compte que la RDC a des talents à revendre. Et ils sont éparpillés à travers le monde. Et même sur le plan local, nous en avons assez. Donc nous avons besoin de l'organisation, du sérieux, de la prévision, nous avons besoin de moyens, mais nous avons besoin aussi d'un entraîneur hautement qualifié pour nous remettre sur la scène internationale. Et c'est pour cela que nous disons que le prix à payer vaut la chandelle, vaut ce challenge que nous devons jouer, parce que nous ne pouvons pas ne pas être en Afrique du Sud en 2010. C'est un objectif, et pour les politiciens, ils savent d'ailleurs ce qui doit arriver après 2010 en Afrique du Sud, il y aura, n'est-ce pas, un nouveau régime qui pointe à l'horizon. Donc nous disons que sur tous les plans, ça vaut la peine que ça soit soigné pour que le Congo jouisse de cette joie-là, les enfants de ce pays qui aiment bien se rejouer de cela, et ne disons pas que c'est une réjouissance banale, mais ça de retomber sur le plan de temps politique, économique, que sur ce culturel.
Merci beaucoup, M. Kabala Mwanambui. Je rappelle que vous êtes conseiller chargé des sports d'élite au cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports. Maître Alain Makengo, ouais. Vous avez débattu ce soir sur la violence dans les installations sportives. Quel est votre dernier mot par rapport à ce thème?
À nos chers auditeurs et sportifs, nous devons savoir que le sport est un moyen de convivialité, d'amour, de paix, de la non-violence. C'est par le sport que beaucoup de murs se sont effondrés, beaucoup de nations qui étaient ennemies se sont rapprochées pour dire non à la guerre, pour dire non à la violence. Et là, à travers toute la République, je crois que d'ici qu'il y aura le championnat national de football et pour d'autres championnats et pour d'autres disciplines, nous lançons un message de fair play, d'amour, de fraternité. La RDC a besoin de la paix. la RDC a besoin de l'unité et la RDC est une terre de paix et qui est en train aussi de recevoir d'autres nationalités, raison pour laquelle au niveau des respects de l'idée de ce jour, nous ne voulons pas aussi qu'il y ait le racisme dans les milieux sportifs. Donc, à bas la violence, vive le fair play, vive le non-racisme, vive la tolérance. C'était le dernier mot de la respect.
Merci beaucoup. Je rappelle que c'était Maître Alain Makengo Kikandou, qui est président de l'ONG LISPED, Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Et j'étais aussi dans ce studio avec M. Kabala Mwanambouyi, qui est conseiller chargé des sports d'élite au cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports. Et notre troisième intervenant, c'était l'honorable Kabongo Ngoy, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous suite à des problèmes téléphoniques. C'est tout pour le débat de ce soir. Au revoir et à très bientôt.